Vous écoutez Europe 1, il est presque 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, le projet de loi sur l'aide à mourir avant d'être débattu fin mai à l'Assemblée, c'est une info Europe 1. La majorité veut faire sauter les lignes rouges fixées par Emmanuel Macron, notamment autour de la majorité de ceux qui demanderaient cet accompagnement. Les indiscrétions du service politique d'Europe 1 dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, le Premier ministre est en déplacement dans un collège à Chartres avec la ministre de l'Éducation pour réaffirmer ses ambitions pour un choc des savoirs et la mise en place de cellules d'appui pour aider les professeurs confrontés à des contestations de la laïcité. L'actualité, c'est aussi ce refus d'obtempérer qui tourne au drame. Un jeune de 18 ans en scooter est mort la nuit dernière en Seine-Saint-Denis. Et puis, sandwich, kebab, burger et pizza, nous en consommons 2 milliards chaque année ici en France à l'occasion du salon du snacking. Et quelles sont les dernières tendances? Eh bien, rendez-vous à la fin de ce journal. Allez, 13h01 bientôt. Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi?
Avec un temps lumineux et très doux sur une grande partie du pays, sauf près de la Méditerranée et vers la Bretagne où les nuages s'imposent, avec même un peu de pluie dans le Finistère. Les températures sont en hausse et quasi printanières, 15 à 20 degrés en moyenne jusqu'à 22 degrés sur le sud-ouest avec des pointes à 23 degrés dans le Pays Basque. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc ce journal avec cette indiscrétion du service politique d'Europe 1. Il y a deux jours, Emmanuel Macron a posé le cadre de son projet de loi sur l'aide active à mourir. Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, capables d'un discernement plein et entier, a annoncé le chef de l'État comme première condition. Mais ce point sur la majorité est loin de faire l'unanimité. Jacques Serret, une partie de son propre camp est prêt à aller au-delà des limites fixées par le président.
Avoir au moins 18 ans pour demander le suicide assisté ou l'euthanasie, ce critère est déjà remis en cause par bon nombre de députés macronistes. Dans les travées de l'Assemblée nationale, ce cadre influent du groupe Renaissance, proche de Gabriel Attal, n'y va pas par quatre chemins. Oui, ça fait partie des points qu'il faut discuter. La question de la majorité ne peut être une condition à l'accès à un tel droit, estime un autre. Et ce parlementaire soutient du président depuis la première heure d'abonder en ce sens. Imaginez un gosse de 16 ans, qui a la maladie de Charcot. On lui dit quoi? Pas de bol? Tu ne peux pas? Des interrogations qui ont de l'écho dans la majorité présidentielle, avec une partie des élus bien décidés à pousser la loi au-delà de ce que préconise le chef de l'État. Et ces élus pourraient bien avoir un soutien de poids. Selon les informations d'Europe 1, le député Modem Olivier Falorni, défenseur de l'euthanasie, est pressenti pour être le futur rapporteur du projet de loi.
Jacques Serret pour Europe 1. Alors ce projet de loi va-t-il aller bien au-delà des limites fixées par le président? Eh bien, dès 13h20, avec mes chroniqueurs Gilles William Goldnadel et Jean-Claude Dacier, nous en débattrons. Et bien sûr, avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, venez réagir. Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Il est 13h03 sur Europe 1. Vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Autre sujet sensible dans ce journal, la question du consentement. Alors que pour l'instant, le viol est jugé à la lumière de quatre éléments, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, eh bien Emmanuel Macron souhaite inscrire dans le droit français cette notion de consentement pour une meilleure répression au plan pénal. Arthur Delaborde, en réalité, ça ressemble beaucoup à un coup politique.
Oui, il s'agit d'un revirement du chef de l'État, puisque la France s'était opposée il y a quelques semaines à une définition européenne du viol qui précisément proposait d'intégrer cette notion de consentement. Ce blocage à Bruxelles avait donné lieu à de vives critiques à gauche, en particulier de Raphaël Glucksmann. Or, les sondages montrent aujourd'hui que la tête de liste du PS pour les européennes est en train de prendre des intentions de vote à la Macronie. Avec cette volte-face, le président vient contredire son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, jusqu'ici opposé à une nouvelle définition du viol. Il semble aussi prendre de court certains de ses collaborateurs qui ne parviennent pas à expliquer clairement les évolutions souhaitées par le chef de l'État. Mais en répondant favorablement à une demande portée par certaines associations féministes, Emmanuel Macron veut envoyer un signal clair aux électeurs de centre-gauche. Cela participe aussi de sa stratégie consistant à polariser le débat à l'extrême pour tenter de mobiliser son camp avant les européennes. Comme il le fait sur d'autres sujets comme l'Ukraine ou la fin de vie, le chef de l'État mise sur un clivage simpliste entre progressistes et populistes.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et des 13h20, là encore, on va décrypter ce sujet avec vous, chers auditeurs d'Europe 1.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé.
Allez, 13h04. La règle, ce sera le groupe et l'exception, ce sera la classe. Gabriel Attal maintient sa volonté d'instaurer des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. Alors, ça ressemble bien à un recadrage de la nouvelle ministre de l'Éducation qui avait annoncé, on s'en souvient, une certaine souplesse dans la mise en place de ces groupes à la rentrée prochaine. Gabriel Attal et Nicole Belloubet qui sont attendus en début d'après-midi dans un collège de Chartres, en Eure-et-Loire, où il sera aussi question de laïcité, trop souvent menacée dans nos écoles. Louis Salé, le Premier ministre, promet d'aider les professeurs qui font face à une contestation grandissante de leur enseignement.
Si un élève oppose à un cours des arguments religieux, eh bien pour faire face à cette situation, le prof concerné peut demander du soutien auprès d'un collègue formé pour être accompagné pédagogiquement et également, si besoin, bénéficier d'une présence physique dans sa classe. Yanis Roder enseigne l'histoire géo dans un collège de Seine-Saint-Denis.
On voit depuis plusieurs années monter un phénomène qui est inquiétant, c'est le phénomène de l'autocensure des enseignants. Qu'ils puissent pouvoir se tourner vers des collègues, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur, parce que parfois c'est plus facile de se tourner vers des collègues à l'extérieur. Je pense que ça peut être une aide.
Enfin, Gabriel Attal réaffirme sa volonté de voir naître les groupes de niveau au collège. La ministre Nicole Belloubet avait dit la semaine dernière vouloir mettre de la souplesse dans ce dispositif en autorisant des temps en classe entière. Mais Gabriel Attal précise bien que les 6e et 5e étudieront par groupe les maths et le français au moins les trois quarts de l'année à partir de septembre.
Les précisions de Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Allez, 13h06, 2 ans et demi après le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des victimes de ces abus sexuels vient de présenter son bilan annuel. 868 personnes sont suivies, 570 ont déjà été indemnisées. Alors Camille Moreau, au-delà de la réparation matérielle et financière, l'instance accompagne aussi les victimes dans des démarches restauratives.
Et oui Céline, les démarches restauratives, ce sont plusieurs actions qui aident les victimes à se reconstruire. Par exemple, demander à l'Église de reconnaître dans une lettre officielle qu'elles ont bien été agressées, renouer le dialogue avec le corps ecclésiastique, témoigner publiquement, oser parler de son traumatisme à sa famille. Damien Mave, 65 ans, a été abusé par un prêtre lorsqu'il avait 7 ans. Il a choisi, entre autres, de rencontrer une autre victime de son agresseur.
La rencontre avec une autre personne victime m'a permis de valider le profil du prêtre concerné, de dire je comprenais mieux pourquoi moi je suis agressé et pas d'autres. On s'aperçoit aujourd'hui que le pas d'autre n'existe pas. Je ne regrette rien. Le classeur de ma vie antérieure est fermé.
Et comme Damien, 187 victimes ont entamé des démarches restauratives en 2023. C'est un premier pas vers la reconstruction, détaille Jean-François Badin, coordinateur des démarches restauratives à l'INIR.
Les démarches restauratives, elles sont choisies par les personnes victimes, elles sont validées par elles, elles sont décidées et elles sont accompagnées par l'INIR dans la mise en œuvre. Et ça contribue réellement à les rendre actrices de cette reconstruction.
Et les personnes suivies par l'instance peuvent aussi demander une réparation financière. En 2023, elles ont reçu en moyenne 35 310 euros, Céline.
Camille Moreau du service Société d'Europe 1. Allez, 13h08, on reste bien sur Europe 1. Dans quelques instants, un refus d'obtempérer qui coûte la vie à un jeune de 18 ans en scooter en Seine-Saint-Denis. Le snacking et la restauration rapide qui continuent de progresser en France en dépit de l'inflation. Et puis la liste de Fabien Galthié pour le choc France-Angleterre dans le tournoi des 6 nations. Europe 1 13h vous informe. Alors à tout de suite.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Il est 13h09, bienvenue sur Europe 1, la suite du journal avec vous Céline Giraud.
Et dans ce journal, je reviens sur ce drame la nuit dernière à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. La garde à vue a été levée pour le passager du scooter accidenté dans une collision avec une voiture de police. Le conducteur, un jeune homme de 18 ans, lui, est mort dans cet accident. Les policiers évoquent un refus d'obtempérer. Jean-Baptiste Marty, que s'est-il passé ?
Eh bien, les faits se sont produits un peu après 19h. Deux personnes circulant à vive allure à scooter sont repérées par les policiers à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le conducteur du deux-roues refuse de s'arrêter et prend la fuite jusqu'à cette collision avec une voiture de la brigade anticriminalité à Aubervilliers. Un choc frontal qui propulse le scooter contre un camion. Un des deux fuyards est grièvement blessé. Pris en charge par les pompiers, il décède finalement à l'hôpital aux environs de 22h. Selon les informations d'Europe 1, un des policiers présents dans la voiture de la BAC est blessé au poignet. Alors après ce drame, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bobigny. La première est confiée à la police des polices. La seconde est entre les mains du service de traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police pour déterminer les causes de l'accident. Selon les premières exploitations de la vidéosurveillance, le véhicule de police, contraint de se déporter pour éviter un véhicule qui ne respectait pas une priorité, n'a pas pu éviter le scooter qui était alors en fuite et roulé à vive allure.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. En bref, sachez que six surveillants de la prison de Réau en Seine-et-Marne ont été placés en garde à vue et seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction pour avoir participé à divers trafics. Selon le procureur de Melun, ils sont accusés d'avoir participé à l'introduction en détention d'objets ou substances interdites, notamment des téléphones portables, des bouteilles d'alcool et des produits stupéfiants. Et puis à Bruxelles qui ouvre une enquête formelle visant le géant chinois du commerce en ligne AliExpress. AliExpress soupçonné de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de lutte contre la vente de produits dangereux comme des faux médicaments.
Europe 1, il est 13h11.
13h, 14h.
Céline Géraud.
Alors que le salon du snacking fait le plein, porte de Versailles à Paris, dans cet Europe 1 13h, on va essayer de comprendre pourquoi ce secteur de la restauration rapide résiste à l'inflation. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 11% en 2023 et le sandwich reste le chouchou des consommateurs français. Un incontournable qui se réinvente, comme l'a constaté Margot Faudéré au salon pour Europe 1.
Sur la table, une baguette coupée en deux, jusque-là rien de très surprenant. Mais à l'intérieur, le classique jambon beurre laisse la place à des notes plus méditerranéennes, imaginées par le chef Guy Martin.
Dans ce sandwich-là au poulet, il y a du rail zanout, c'est un mélange d'épices qui vient du Maghreb, avec des citrons confits, les fruits secs aussi, dont les abricots. C'est pour faire voyager notre client.
Avec des ingrédients originaux, ces sandwichs premium ont un prix, forcément. Mais pour le chef, offrir de nouvelles saveurs est indispensable pour affronter la concurrence d'autres snacking, comme les burgers ou les pizzas.
Une partie vient des États-Unis, du Japon, de la Corée, mais de l'Inde aussi. Il faut être capable aujourd'hui de diversité.
Inspirations exotiques, préparations chaudes, mais aussi sandwichs sans viande. Le snacking suit les nouvelles tendances de consommation. Fabien Poulaillon et ses Morissettes, des sandwichs à base de brioche, proposent des recettes végétariennes.
On en crée 2 à 3 nouvelles tous les ans. Alors c'est pas le plus gros du chiffre d'affaires, mais c'est en constante augmentation.
Quelle que soit la recette, le succès est toujours au rendez-vous. Chaque année, plus de 2 milliards de sandwichs sont vendu en France.
Margot Faudéré au Salon du Sandwich pour Europe 1.
Et à 13h13 sur Europe 1, on parle sport. France-Angleterre, c'est le match, Céline, que l'on attend tous chaque année lors du tournoi Destination.
Oui, le crunch samedi soir à Lyon, c'est le dernier match de ce tournoi pour un 15 de France qui conserve un infime espoir de remporter la compétition. Alors le choc s'annonce rugueux. Cédric Chasseur, après l'embellie le week-end dernier face au Pays de Galles, le sélectionneur a joué la carte de la continuité.
Oui, aucun changement dans le groupe retenu par Fabien Galthié qui défiera l'Angleterre. C'est le même 15 de départ, les mêmes remplaçants que face au Pays de Galles dimanche dernier. Une première depuis que le sélectionneur a pris son poste fin 2019. Un choix que Fabien Galthié n'a eu aucun mal à expliquer.
C'est d'abord la performance du week-end dernier. C'est ensuite le fait qu'il n'y ait pas de joueurs blessés. Et c'est la possibilité d'enchaîner avec la même équipe de match. En 6 jours, c'est vrai que ça nous permet d'aller plus vite à la préparation qui se veut plus courte.
Emmanuel Méafou en deuxième ligne, Nicolas Deporter au centre ou encore Léo Barré à l'arrière vont donc connaître leur deuxième sélection en bleu. Des joueurs qui ont apporté beaucoup d'énergie, à saluer Fabien Galthié, qui fait confiance également à sa nouvelle charnière Nolan Le Garec, Thomas Ramos. Attention tout de même à cette équipe d'Angleterre qui a fait tomber l'Irlande samedi dernier à domicile et qui voudra sans doute effacer à Lyon l'humiliation subie il y a un an à Twickenham 50-10. C'est une équipe en pleine confiance, en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre, a prévenu Fabien Galthié.
Cédric Chasseur pour Europe 1, 13h14. Allez, comme chaque jour, un point sur les marchés avec vous, Didier Hameau de boursier.com, avec un nouveau record.
Encore des records, toujours des records, toujours plus haut le CAC 40, plus 0,8%, 8200 points tout rond ce midi. Cette fois, c'est le secteur du luxe qui entraîne le marché à la hausse. Sur des espoirs de rebond de la consommation en Chine, on a Kering qui gagne 3%, LVMH plus 2%, Hermès plus 2% aussi. Quelques grandes valeurs industrielles montent aussi nettement. Renault, plus 4% à 43 euros. Schneider, plus 1,5%, 216 euros. Schneider est au plus haut historique. Safran aussi au plus haut, plus 1% à 202 euros. C'est pareil en Europe partout. Francfort, plus 0,4%, là aussi c'est un sommet. Bruxelles, plus 0,2%. Madrid, plus 0,1%. Le CAC 40 au plus haut, plus 0,8%, 8200 points.
Merci Didier Hameau de Boursier.com. Allez, place à la météo.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur Demeco.fr.
Demeco.
Avec vous, Géraldine Hamon, cet après-midi, c'est la plus belle journée de la semaine.
Oui Céline, on en profite avec des températures en hausse et printanières. Il fera 13 degrés à Brest, 15 à Cherbourg, 16 degrés à Lille, 17 à Rennes et Strasbourg, 18 degrés à Paris, 19 degrés à Bordeaux, 21 degrés à Cahors jusqu'à 23 degrés à Pau. Les couleurs du ciel maintenant, et bien de la Bretagne au Cotentin et à la Vendée, la tendance est à la dégradation avec un ciel de plus en plus chargé et de faibles précipitations présentes en Bretagne en cours d'après-midi. Cette dégradation pluvieuse va s'étendre à une large moitié nord-ouest de la France. Une petite dégradation s'opère aussi sur le sud Aquitaine et va gagner les régions de l'Occitanie au massif central avec quelques ondées possibles en cours de nuit suivante. Et sur le reste du pays, là les conditions s'annoncent plus agréables pour cet après-midi avec la journée qui se poursuit sous un temps lumineux et très doux malgré un soleil de plus en plus voilé par l'ouest et le vent d'autant, le vent du sud aussi autour de la région lyonnaise qui approche les 50 km/h. Profitez donc de cette belle journée lumineuse sur la majeure partie du pays puisque demain malheureusement ça sera de nouveau perturbé sur les deux tiers nord de la France.
Merci Géraldine Hamon, c'était la météo et nous évidemment on continue avec vous chers auditeurs d'Europe 1 à décrypter ce qui fait l'actualité aujourd'hui. On sera dans quelques instants avec l'avocat Gilles William Goldnadel et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. On va revenir sur ce projet de loi, sur l'aide à mourir, la notion de consentement en matière de viol, la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron qui court-circuite le débat sur les européennes et Sciences Po. Là encore, beaucoup de réactions suite aux dérives d'hier. A tout de suite sur Europe 1.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud. Bon début d'après-midi sur Europe 1.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Giraud et vos réactions, vous, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Céline, vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique et l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel.
Que je salue, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va évidemment dérouler. Ce qui fait, on n'est que jeudi, ce qui fait l'actualité
vrai,
aujourd'hui.
Toujours à se plaindre.
La fin de vie, on l'a dit, le consentement, la notion de consentement, Sciences Po dans la tourmente. Mais là, tout de suite, j'aimerais vous entendre sur cette sortie du ministre des Transports ce matin, Patrice Vergriete, qui conseille aux Franciliens de modifier leur comportement pour se déplacer pendant les Jeux.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans
oui, parce
Paris,
qu'il dit, le ministre, c'est peut-être le moment de ressortir son vélo, parce qu'il n'y aura pas de restrictions sur le vélo ou la marche pendant les Jeux et les Jeux paralympiques. Se déplacer en vélo, ce sera très très libre. Gilles William Goldnadel.
Bon, d'abord, moi, je n'ai pas de vélo.
Moi non plus.
Donc vous n'allez pas pouvoir le ressortir.
C'est un problème, c'est une difficulté pas de vélo à laquelle n'a pas songé notre ministre des Transports. Mais d'autre part, je suis totalement son conseil puisque vous ne me verrez pas au moment des Jeux Olympiques.
D'accord.
Faut pas compter sur moi.
Après, ça veut peut-être aussi dire pour éviter la pagaille et le capharnaüm, on va tout circuler.
On va pas devenir Amsterdam ou Rotterdam du jour au lendemain. J'espère que ça ne traduit pas chez notre nouveau ministre des Transports une certaine inquiétude sur l'attitude des syndicats pendant cette période. Mmh. J'espère qu'avec l'argent qu'on leur a annoncé, ça devrait bien se passer. Maintenant que ceux qui veulent aller dans tel ou tel lieu assister aux épreuves des JO y aillent en
on
vélo.
On attend quand même 10 millions de visiteurs pendant les Jeux
Olympiques.
Ça ne me gêne
pas, je pense que quand même il y aura beaucoup d'étrangers qui ne vont pas venir avec leur vélo.
Mais en train, en tout cas, c'est compliqué, puisque vous l'avez vu aussi hier, la SNCF, pour le moment, n'ouvre pas l'accès aux billets pour les vacances d'été, pour la date du 26 juillet, qui est le jour de la cérémonie d'ouverture. Là aussi, il y a quelques...
Mon camarade, un, je n'ai pas de vélo à Paris, et deux, je pense que je vais prendre le chemin des écoliers.
Ça s'appelle la fuite.
Pendant les Jeux Olympiques, donc voilà.
Autre sujet dont je voulais vous parler, évidemment, on vient d'en parler d'ailleurs avec Jacques Seret dans Europe 1 13h, les limites, les vraies limites de la future loi sur la fin de vie. Ça ne vous a pas échappé que le projet de loi sur l'aide active à mourir dévoilé lundi par Emmanuel Macron contient des règles strictes. Strictes, il faut notamment être majeur pour demander le suicide assisté ou l'euthanasie, mais... Selon les informations d'Europe 1, une partie du propre camp d'Emmanuel Macron veut aller au-delà, notamment sur le sujet de la majorité. Est-ce que Jean-Claude Dacier, ça veut dire que le projet de loi pourrait aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu pour le moment ?
Jusqu'à preuve du contraire, les députés et sénateurs ont un droit d'amendement, non ? C'est même le cœur même de notre démocratie. Le président de la République a travaillé pendant des mois pour obtenir ou pour essayer de bâtir... Après avoir vu beaucoup de monde, quand même. Ce projet de loi sur la fin de vie, manifestement, il a été accueilli, plutôt avec distance, plutôt franchement, notamment fraîchement, notamment par le corps médical. Maintenant, vos informations sur Europe 1 sont sûrement hyper fiables, qu'il y a une partie de la majorité qui pense que l'euthanasie va peut-être s'imposer comme étant... C'est quoi l'euthanasie au fait? Qui fait la piqûre ou qui débranche? À l'heure actuelle, dans la plupart... Enfin, je ne sais pas si c'est dans la plupart. Beaucoup, dans beaucoup d'hôpitaux, d'installations de médicales en France, vous avez des gens qui savent dire, bon, écoutez, c'est pas possible. Il n'y a plus la moindre chance de sauver la vie de ce malheureux. Et qui débranchent en douce. Qui font
c'est des sédations profondes.
Qui font entrer leurs malades dans la sédation profonde. Que ça devienne la règle, j'en doute encore un peu. Je ne mets pas en cause et en doute les informations d'Europe 1, mais j'en doute un peu.
Selon les informations d'Europe 1, d'ailleurs, c'est le député Modem, Olivier Falorni, grand défenseur de l'euthanasie, qui est pressenti pour être le futur rapporteur du projet de loi, Gilles-William Golnadel.
Non mais écoutez, en ce qui me concerne, je suis favorable à ce projet de loi. J'ai toujours été favorable... à ce qu'on appelle l'euthanasie, mais c'est pas tout à fait juste, parce que l'euthanasie,
c'est l'aide active à mourir,
l'euthanasie de mauvais souvenirs, c'était aussi de donner la mort à ceux qui ne l'avaient pas demandé, une certaine période. Donc moi, je ne considère pas la vie comme absolument sacrée. Il y a des gens, des terroristes par exemple, dont je souhaite la mort. Je considère l'avortement comme un drame, mais qu'on peut accepter... et non pas de gaieté de cœur, certainement pas, mais je l'accepte. Et donc, je ne vois pas pourquoi, en ce qui me concerne particulièrement, si un jour je suis dans un état que j'estime indigne, on ne m'aiderait pas à faire ce que je ne sais pas faire. D'ailleurs, j'observe que dans le texte de loi, eh bien, il y a la possibilité de le faire soi-même, pour autant qu'on vous explique comment faire. Donc, moi, j'y suis très favorable. Maintenant, avec une frontière à laquelle je tiens particulièrement, c'est l'âge de la majorité.
C'est justement l'enjeu du...
Et donc, votre information m'inquiète. Mais je veux croire quand même que raison sera gardée, c'est tout.
On suivra ça, évidemment. On va prendre, Catherine, qui nous écoute en Bourgogne. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Vous souhaitiez réagir sur le sujet. Bonjour.
Bienvenue. Voilà, moi, je voudrais juste apporter un témoignage d'une situation à laquelle moi-même j'ai été confrontée. J'ai une maman qui a atteint l'âge de 100 ans. Et lorsqu'elle a eu ses 100 ans, elle souffrait d'un escar qui, à un moment donné, ne pouvait plus être soigné. Donc, je me suis retrouvée face à un personnel médical... Qui m'a demandé ce que je souhaitais faire. Soit on la mettait à l'hôpital, c'était de l'acharnement, soit on fait l'arrêt des soins. J'ai donc découvert l'arrêt des soins, c'est-à-dire on ne va plus lui donner ni à manger ni à boire. Et voilà. Et donc, elle a mis à mourir.
Elle a mis, pardonnez-moi, on a la liaison était mauvaise. Elle a mis combien de temps?
Trois jours. Trois jours à partir. Je trouvais ça extrêmement violent. J'aurais préféré qu'on puisse arrêter autrement, gentiment, quoi.
Donc vous, le projet de loi proposé par Emmanuel Macron, cette aide active à mourir, vous êtes plutôt favorable?
Mais là, dans ce cas-là, on l'aurait fait pour...
Et pourquoi ils n'ont pas fait la sédation profonde pour votre maman?
Ils l'ont mis sous morphine, tout. Mais elle l'était déjà avant à cause de la douleur de l'escar.
D'accord.
Ça n'a pas changé.
Donc finalement, elle a été sous sédation profonde avec l'arrêt des soins de façon simultanée. Elle n'a pas souffert.
Ça, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, on laisse le corps se dégrader jusqu'à... On aurait très bien pu... Je pense qu'on le fait pour un...
Merci Catherine, la liaison n'est pas très bonne. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel et ce témoignage. Voilà, on le comprend, Jean-Claude.
Mais... C'est
l'exemple. Chaque cas est particulier.
Mais bien sûr, c'est exactement ce que je voulais dire. Il est extrêmement difficile, peut-être nos députés et sénateurs y parviendront-ils, mais il est extrêmement difficile d'écrire une loi générale qui fixe les conditions dans lesquelles on pourra, etc., etc., alors que chaque cas, on vient de l'entendre, est un cas tellement particulier. C'est une telle intrusion dans la vie ultime, les dernières minutes de la vie, que, honnêtement, il faut aborder ces questions avec beaucoup de de modestie, de prudence. J'espère que les députés, j'espère que tout ça se déroulera dans les meilleures conditions possibles.
Il y a des gens qui veulent mourir.
Oui, absolument.
Donc,
organisons-le.
Ceux qui veulent mourir, il faut les aider.
Simplement, c'est ennuyeux de demander aux médecins, encore une fois, de passer avec le fameux serment, on va pas revenir là-dessus, mais de passer d'un droit à soigner, enfin, pas un droit, une obligation à soigner, un droit, même s'il est codifié dans tous les recoins et coins, d'un droit à donner la mort. C'est compliqué.
C'est un sujet sensible. Et évidemment, on continuera à en parler sur Europe 1. Et dans quelques instants, on va parler d'un autre sujet sensible, celui de la notion de consentement en matière de viol. Restez bien avec nous sur Europe 1. Chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir.
Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1. Le journal permanent.
À 13h32 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud.
Les pays de l'OTAN ne donnent pas assez de munitions à l'Ukraine, selon Jens Stoltenberg. Cela a des conséquences tous les jours sur le champ de bataille, a affirmé le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir sur les enjeux du soutien à l'Ukraine. Le président de la République prendra la parole après ses déclarations autour de l'envoi possible de troupes au sol. L'Ukraine qui appelle la communauté internationale à rejeter le résultat de la présidentielle russe à partir de demain et jusqu'à dimanche soir. Les Russes sont appelés à voter pour la présidentielle. Vladimir Poutine appelle les Russes à voter pour exprimer une position civile et patriotique. Fin de citation. Protéger les élus contre les violences de plus en plus fréquentes dont ils sont victimes. Le Parlement adopte une proposition de loi qui prévoit des sanctions alourdies et une protection fonctionnelle facilitée. Les élus sont en première ligne. Nous combattons le renoncement provoqué par ces violences, a déclaré la ministre des Collectivités Territoriales, Dominique Faure. Deux enquêtes ouvertes après la mort d'un jeune homme de 18 ans à Aubervilliers. Son scooter est entré en collision avec une voiture de police après une course-poursuite. La police évoque un refus d'obtempérer. La garde à vue du passager du scooter a été levée ce matin. Et puis ça y est, on connaît la composition du 15 de France pour affronter l'Angleterre. Samedi soir à Lyon, dernière journée du tournoi des Six Nations, le sélectionneur Fabien Galthié a reconduit l'équipe qui a dominé le Pays de Galles dimanche dernier. Enfin, les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, c'est ce soir. L'Olympique de Marseille se déplace à Villarreal. Coup d'envoi à 18h45.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h33. Europe 1, 13h, la suite avec vous Céline Giraud. Et vos chroniqueurs du jour, l'avocat essayiste Gilles-William Golnadel et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier.
Et on va évoquer, comme je le disais, à 13h34 avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, cette notion très sensible de consentement. Emmanuel Macron a exprimé son intention d'inscrire dans le droit français la notion d'absence de consentement en matière de viol. C'était le 8 mars dernier, dans un échange filmé avec une association féministe, Choisir la cause des femmes. Écoutez.
On l'intègre dans le droit français, que le consentement puisse être inscrit, ça je l'entends tout à fait.
Les députés de Renaissance font beaucoup de travail au Parlement européen, pas forcément soutenu, parce que sur l'article 5, sur les punitions du viol, c'est une question hyper importante.
Oui, et je vais l'inscrire dans le droit français. Je ne voulais pas qu'on rentre dans une définition de l'eurocrime, enfin, ce n'était pas dans l'eurocrime, parce que pour le coup, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Par contre, qu'on l'intègre dans le droit français, que le consentement puisse être inscrit, ça je l'entends tout à fait.
Voilà, on l'entend, la liaison n'est pas très bonne, mais je veux l'inscrire dans le droit français. Alors cette notion de consentement, comment est-ce qu'on peut la définir? C'est vrai que c'est très compliqué. Est-ce que c'est toujours explicite, Gilles-William Golnadel?
Mais écoutez, moi je suis très hostile à ce projet. Hein.
Pourquoi?
Et c'est l'avocat qui vous parle.
Oui.
C'est parce que il y a une dose, du coup vous introduisez une dose de spéculation intellectuelle. Et quand vous êtes confronté à ce genre de problème, vous vous êtes attaché aux faits. C'est-à-dire qu'actuellement, d'ailleurs, vous savez, les violeurs, dans leur immense majorité, justement, le problème se passe du consentement des violés.
Implicite ou explicite.
Ils se foutent, le violeur se fout du consentement. Il trouve même souvent plaisir à ce qu'il n'y ait justement pas de consentement. Donc, je veux dire, il y a les faits, vous avez un article de loi, il faut qu'il y ait la violence, la contrainte, la surprise, c'est factuel.
Violence, contrainte, menace ou surprise,
bien.
Voilà.
Donc, quelquefois, les poursuites ne vont pas jusqu'au bout parce qu'il y a un problème de preuve. souvent ces choses-là se passent à deux. Ou alors, pardon d'être trivial, ou 4 plus 1, enfin je ne sais pas, mais les preuves sont difficiles à établir. Maintenant, avec le consentement, on va rentrer dans une zone épouvantable sur le plan de la spéculation intellectuelle, parce qu'on vous dira, le consentement était vicié, même s'il n'était pas apparent, le consentement a été vicié. Telle femme dira, j'osais pas, il ne l'a pas vu le patron, mais j'ai pas osé lui refuser mes faveurs, parce que sinon il m'aurait viré. Ou plus, j'ai entendu maintenant l'exemple de cette association féministe qui dit l'ébriété.
Oui.
Si la personne, ils ont dit la femme, si la femme était dans l'ébriété, permettez-moi de vous dire que c'est extrêmement dangereux.
Oui.
Dans ma vie, j'ai connu des hommes qui avaient beaucoup bu, qui n'auraient peut-être pas couché avec la femme s'ils n'avaient pas vu. Ils l'ont regretté le lendemain. Est-ce que du coup, ils vont porter plainte pour viol contre la femme? Ça va loin, vous savez, cette histoire-là. Donc, voilà pourquoi je suis très réticent.
Jean-Claude Dacier, sur ce sujet, c'est vrai que c'est complexe.
J'ai pas d'opinion ferme et claire, mais j'avoue avoir été largement influencé, voire convaincu, par les arguments de mon camarade Goldalen. Ou alors, je vais pas reprendre ce qu'il a dit, ou alors, avant l'amour, nous allons signer, cher ami, des papiers.
Un contrat.
Voilà.
Faudra signer des papiers, comme quoi...
Il y a consentement.
Quand vous avez des jeunes femmes, pourquoi pas, et je respecte parfaitement leur attitude et leur décision, mais enfin, 15 ou 20 ans après, disent « j'ai été violée par monsieur machin », c'est vrai que la charge de la preuve n'est pas facile à établir, et donc on entre dans une querelle, c'est médias qui en général font la décision et pas la justice.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y aura un genre de formulaire à remplir.
Je crains que ce soit comme l'IVG, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose sur le terrain, et que ce consentement, encore une fois, oui, non, non, oui, et la passion, elle est où? Et le désir mutuel brutal qui s'empare parfois de nos camarades. Ça peut arriver. Il n'y a pas de consentement et 10 ans, 15 ans après, vous regrettez ce que vous avez consenti à faire. Écoutez, si vraiment il faut que ce soit dans la loi pour faire plaisir aux associations féministes, faisons-le. Mais très honnêtement, je crains que ça ne change pas grand-chose.
Gilles-William Gonanel, est-ce que le droit français, aujourd'hui, en a besoin?
Non.
Non. Parce que le texte, il existe, on en a parlé, violence, contrainte, menace ou surprise.
Mais aucunement, pardon de le dire, c'est vous cédez en vérité à une sorte de mode intellectuel qui tourne, encore une fois, autour de thématiques un peu difficiles, comme l'emprise. Où elle commence, où elle finit l'emprise.
C'est l'actualité. Judith Godrèche, par exemple, s'est longuement exprimée. On en a beaucoup
parlé.
Eh
bien, moi, ce sont des. C'est une mode qui, pour vous dire les choses.
Pour vous, c'est une tendance. Il y a eu la vague MeToo, et là, on est au-delà, ça continue.
C'est une mode intellectuelle qui tourne autour du féminisme radical. Il n'y a pas de doute. Donc, et aussi d'une. Je le perçois comme ça, d'un sexisme anti-masculin. Mais moi, pardon, je suis... Et pourtant, celui qui vous parle serait peut-être le plus sévère contre le violeur quand les faits sont établis. Vous comprenez? Mais je crains beaucoup, effectivement, comme Jean-Claude l'a dit, je crains beaucoup le tribunal médiatique, parce qu'une fois que la punition est donnée par le tribunal médiatique, vous êtes foutu.
Oui, bien sûr.
Vous aurez peut-être votre innocence sera reconnue des années après, mais vous serez mort socialement, professionnellement et peut-être même dans votre couple. Voilà pourquoi c'est une tendance que je n'apprécie pas beaucoup.
Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait mis en garde contre le risque de glissement vers une contractualisation des relations sexuelles.
Alors, il
y a de ça, c'est ce que vous dites, Jean-Claude Dacier. Est-ce qu'il y a aussi une fuite en avant, quelque part, d'Emmanuel Macron qui s'empare des sujets sociétaux? Vous en avez parlé, Gilles-William Gonadel. Il y a eu l'interruption volontaire de grossesse, la fin de vie. Là, il y a la notion de consentement en matière de viol.
Jean-Claude Dacier, c'est Figaro qui parlait de la chevauchée sociétale du président de la République. Bon, c'est très respectable.
Pourquoi?
Il essaie d'améliorer, parce qu'il essaie, j'espère que c'est ça, que c'est pas uniquement pour le plaisir de faire de la politique et de taper sur les extrêmes. J'espère qu'on n'en est plus là. Il a la sincère volonté de faire plaisir à un certain nombre d'associations qui pensent, à tort ou à raison, qu'elles vont améliorer les relations entre les hommes et les femmes. Je crains d'être largement de l'avis de mon camarade Goldanen. Je pense que c'est hélas plus compliqué que ça. Les relations humaines sont ce qu'elles sont. Et je ne vois pas ce qui ajoutera ou retirera le terme consentement dans le code pénal tel que l'envisage le président de la République.
Je pense que les relations... D'abord, Jean-Claude a raison. Je pense que déjà les relations sont affectées par cela. Je pense que je me garderai bien maintenant, alors qu'en principe, mes pires détracteurs ne me contestent pas un certain courage intellectuel. Je pense que je fais moins de compliments totalement désintéressés à une femme, telle que j'en faisais il y a encore quelques années.
Mais comment ? Quelqu'un se méfie, franchement.
Mais très sincèrement.
Oui. On
n'ose plus dire à une femme qu'elle est jolie, parce que vous risquez de vous retrouver dans le bureau du juge.
Je pense qu'il y a encore une vingtaine d'années, si je traversais un passage clouté et qu'il y avait un petit môme très mignon de 7-8 ans disant peut-être que j'aurais touché la tête tendrement, je ne le ferais plus maintenant. Nos comportements sont viciés. Et pour apporter de l'eau au moulin également à Jean-Claude, même sur la question de l'avortement, celui qui vous parle et qui est favorable à l'avortement sans aucun et à la loi Veil n'a pas beaucoup apprécié qu'on passe de la 12e à la 14e semaine.
Moi non plus. Je suis de ton avis.
Les médecins les plus favorables à l'avortement vous disent maintenant qu'ils répugnent à le faire dans cette période-là parce que vous êtes obligé de broyer la cage cervicale du fœtus, ce qui est quand même pas très agréable.
Oui. Effectivement, vous avez raison de revenir
c'est
sur ce sujet.
C'est terrible de ne pas avoir de majorité à soi à l'Assemblée nationale. Ça vous mène parfois dans des réflexions qui sont peut-être un peu parallèles.
Vous pensez qu'on en est là parce qu'il n'a pas la majorité,
là,
Emmanuel Macron.
Un peu de politique, je retire ce que j'ai dit.
Je ne sais pas.
On va poursuivre le débat dans quelques instants. On va parler de notre fuite en avant, celle d'Emmanuel Macron ce soir, qui court-circuite quelque part le débat sur les européennes qui se jouent, au même moment, sur une autre chaîne. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h43. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud. Europe 1 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et avec vous ce jeudi 14 mars pour décrypter l'actualité, Céline, Gilles William Goldnadel et Jean-Claude Dacier.
Et on revient sur ces dérives du côté de Sciences Po. Sciences Po est-il devenu science woke ? C'est Dimitri Pavlenko qui posait la question ce matin sur Europe 1. Pourquoi ? Parce que deux jours après la manifestation de militants pro-palestiniens dans un amphithéâtre rebaptisé Gaza, avec une étudiante juive qui se serait vue refuser l'accès à cet amphithéâtre, accusée d'être sioniste, eh bien les réactions se succèdent. Écoutez celle de la présidente de l'Assemblée nationale ce matin. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews lors de la grande interview, Yaël Braun-Pivet.
C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Ça n'est pas acceptable. Et puis, il n'est pas acceptable de faire ces actes de racisme, d'antisémitisme, où que ce soit dans la société, encore plus dans une université.
Yaël Braun-Pivet ce matin sur Europe 1. Alors Sciences Po Paris a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale et en parallèle la direction a ouvert une enquête administrative. C'est vrai que leur premier communiqué ne nommait pas directement les faits. Jean-Claude Dacier, une réaction ?
Je vais vous dire, ce qui se passe à Sciences Po n'est pas nouveau, mais ce n'est pas une excuse. Moi, j'ai connu un temps où la guerre du Vietnam, la partie en tout cas américaine, déclenchait en France, mais aussi aux États-Unis, dans les universités et dans les grandes écoles de nos pays, en Europe et aux États-Unis, une violence des affrontements qui était très grande, et politiquement même, ça a pesé. Je dirais presque que c'est l'inverse. Si Sciences Po, il ne se passait jamais rien, si on ne discutait pas politique à Sciences Po ou ailleurs, ça serait probablement ça qui serait pas normal. Là où, quand même, je trouve que Sciences Po, en effet, et sans doute pas seulement Sciences Po, dérape, il y a le problème de l'antisémitisme, on verra s'il s'est posé concrètement là sur cette fille qui veut rentrer et dit « Ah, les sionistes dehors !» ou si c'est devenu un affrontement permanent. Il était évident que la situation au Proche-Orient, il y a une porosité évidente, notamment en France, où on a une population musulmane très importante. Néanmoins, encore une fois, je trouve que, et j'en termine là pour laisser la parole à mon camarade Goldaden, je trouve que la manière dont a été traité, alors qu'une enquête est en cours, une plainte a été déposée, je trouve que le président a envoyé un peu vite le Premier ministre sur place. Je pense que c'est pas très adroit. Je pense que c'est même plutôt maladroit. C'était pas la peine de nous dire ce qu'il faut penser de tout ça. On sait ce qu'il faut penser de ça. Et ces affrontements-là, non seulement doivent être condamnés, mais en plus, ils doivent être, je veux dire, poursuivis par la justice. Sur le mot sioniste, c'est pour ça que l'enquête est en cours.
C'est ça.
Et qu'il sera important de savoir si vraiment ce mot-là a été choisi. Moi, je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la politique israélienne. Je ne m'en prive pas d'ailleurs, parce que je considère que la politique de M. Netanyahou est dangereuse pour l'existence même, ou l'avenir même d'Israël. Et que c'est une politique qu'on qualifie ou non de sioniste. Si on peut plus utiliser ce terme-là non plus, ça va finir par poser des vrais problèmes de radicalisation. Et moi, je pense qu'il serait plus que temps, sur le terrain, mais c'est un autre débat, et sur la Sciences Po, et dans nos universités. Le wokisme me préoccupe moins, parce que c'est tellement caricatural, c'est tellement loin des réalités quotidiennes que nous vivons, que ça s'arrangera dans les mois et années qui viennent. En revanche, la situation au Proche-Orient et l'antisémitisme qui explose et qui monte me préoccupe beaucoup.
Et Gérard Larcher, le président du Sénat, l'affirme, il dit c'est pas anecdotique, une école d'excellence qui a basculé,
bien sûr.
Ne peut pas devenir, y compris de la part d'une minorité, un bunker islamo-gauchiste.
Non,
la question
réagir.
Est en train de prendre la main, la question au fond d'une idéologie est en train de prendre la main des universités, Gilles-William Goldnadel.
D'abord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil noir des universités françaises. L'extrême gauche.
Mais là, c'est une université d'excellence.
Ce que je veux dire, de manière générale, moi-même, qui ne suis malheureusement pas né de la dernière pluie, j'ai connu les amphis. Les facultés sous l'emprise de l'extrême gauche. La nouveauté, c'est d'une part, c'est que Sciences Po, depuis Richard Descoings, qui avait même installé des séminaires, alors c'est pour le coup, wokiste, c'est que Sciences Po également, qui était plutôt l'élite, a également basculé et a rejoint le triste niveau intellectuel et moral de l'ensemble universitaire. Et puis l'autre changement aussi, d'une certaine manière, c'est que l'extrême-gauche elle-même a évolué. Elle est aujourd'hui à la fois wokiste et furieusement antisémite par soumission au Hamas, et que par conséquent, c'est une petite minorité. Comme toujours, ils sont 60. Ils étaient 60, parce que là, on est il faut comprendre, l'événement là, on est dans l'illégalité. Il y a 60 types, compris le Lamphi. Il devait y avoir un cours magistral. Et ils ont décidé de faire Gaza avec certaines filles, certains masqués, d'autres voilées. La réalité, elle est là. Et je veux bien croire que ces gens-là ont parfaitement traité de sioniste. C'était la moindre de ce qu'ils pouvaient dire. Une étudiante juive, il n'y a aucun doute. Je voudrais quand même dire à mon excellent ami d'acier que la situation en Israël n'est quand même pas simple depuis le pogrom du 7 octobre. Dans mon livre, pardon de le dire, le journal de guerre, j'avais dit dès le 10 octobre qu'Israël pogromisé serait nazifié. C'est pas facile de tuer le Hamas quand vous avez des boucliers civils, c'est tout.
C'est impossible.
On a Philippe qui nous appelle pour réagir, on va le prendre tout de suite. Philippe qui nous écoute en Gironde, bonjour.
Oui, bonjour.
En une minute, Philippe, votre sentiment.
Oui, très vite. C'est un atomie d'une chute. C'est-à-dire que moi j'ai connu effectivement Sciences Po à la fin des années 80. J'arrivais de Nanterre justement, entrant en deuxième année. C'était justement pour pas retrouver les prises de parole effectivement en amphi. Et là, j'ai vu effectivement les images. C'est effectivement la dérive qu'on a connue dans les universités qui arrive dans un institut qui était effectivement jusque-là tempéré avec des gens qui s'écoutaient.
Vous avez connu une autre époque, c'est ça ? Vous étiez étudiant en Sciences
Po. Oui, tout à fait.
Oui.
C'est la fin des années 80. Moi, j'ai connu René Raymond, qui était effectivement président de l'association des Sciences Po, historien renommé spécialité droite en France. On avait comme directeur Alain Lancelot. Et à l'époque, effectivement, avait un institut qui fonctionnait bien. On avait des gens qui discutaient, qui étaient tempérés.
Avec des sanctions qui étaient tenues.
Jamais un débat comme ça n'aurait pu être organisé du temps effectivement, de ces deux personnes. Mm-hmm. Et on voit effectivement une dérive depuis 1996. Mm-hmm. Depuis, effectivement, Richard Descoings, l'excellent livre de Raphaël Baquet qui est écrit dessus. Mmh. Ensuite, Famille Agrandet avec Duhamel. Et puis, aujourd'hui, on arrive effectivement à une dérive universitaire.
Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vous êtes ancien étudiant, je le rappelle, de Sciences Po, Philippe, qui nous écoute en Gironde. Merci beaucoup, les amis, Gilles-William Golnadel.
Quand on voit, par exemple, qu'à Sciences Po, 55% des étudiants votent Mélenchon, ça vous fait un peu réfléchir. Je sais bien qu'ils ont été marxistes, je sais bien qu'ils ont été maoïstes, les voilà wokistes. Il faudrait qu'ils se mettent un peu de plomb dans la tête, quand même.
C'était Jean-Claude Dacier. Merci beaucoup, Gilles-William Golnadel. Merci, Géraldine. Et on se retrouve demain, Europe 1 13h. On décrypte et on vous informe sur Europe 1.